Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo a assisté à la commémoration de la Journée nationale de la presse 2017. Le président Joko Widodo est optimiste que le phénomène de canular fera aux personnes plus matures. Tous les composants de la nation doivent développer la République d'Indonésie devient un État prospère. L'Afrique est la priorité de la diplomatie économique en 2017. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo et Madame Iriana Joko Widodo ont assisté à la commémoration de la Journée nationale de la presse 2017 à Ambon les Moluques, jeudi le 9 février 2017. Ils ont été accueillis par le président de l'Association des journalistes indonésiens, OPWI, M. Margiono. Le présent a été accompagné par, entre autres, le ministre de la Communication et de l'Information, M. Rudi Antara, le ministre de Coordination pour le Développement Humain et Culture, Mme Puan Maharani, le secrétaire du cabinet, M. Pramono Anung, le ministre de la Santé, Mme Nila Muluk, et le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya. Il y a aussi les fonctionnaires de l'État, des ambassadeurs des pays voisins et le propriétaire de la société de médias. Dans son discours, le président a exprimé l'espoir que la célébration de la Journée nationale de presse 2017 peut être une étape ensemble pour construire la République unitaire d'Indonésie et de développer une économie plus équitable pour tous les gens de l'Indonésie. Nous espérons l'anniversaire de la Journée nationale de la presse 2017 dans la ville de Ambon pour renforcer notre engagement commun pour construire l'Indonésie harmonieuse et la réalisation économique équitable pour tous les Indonésiens. Le président a également assisté à la signature d'un mémorandum d'accord entre le Conseil de la presse, le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne ou TNI et le chef de police. Le protocole d'entente est un accord entre les trois parties dans l'effort pour fournir une protection à la profession de journaliste. En outre, le président a donné symboliquement l'élan à l'économie d'énergie au gouverneur des Moluques, M. Saïd Assagaf, qui sera distribué à la population locale qui en ont besoin. Le phénomène des utilisations des médias sociaux du public en Indonésie devient un outil qui est habituellement utilisé pour diffuser les fausses informations ou canulars. La propagation des canulars utilise généralement les médias sociaux comme moyen de diffusion. À ce sujet, le président Joko Widodo a déclaré qu'il était optimiste avec ce phénomène pour rendre les Indonésiens plus matures. Ainsi, ils peuvent être plus sages d'utiliser les médias sociaux et de filtrer toutes les informations dans les médias sociaux. En outre, le président encourage les médias actuels à effectuer le rôle de corriger toutes les fausses informations diffusées sur les médias sociaux. Il a également déclaré que dans ce cas, les médias traditionnels ont le pouvoir d'exactitude et la profondeur de l'information qui est capable de presser le mauvais impact de la diffusion des fausses informations au public. La numérisation de la communication rend chaque personne, chaque individu devient un producteur de nouvelles. Tout peut être la prédication, ce qu'il avoue et ce qui est passé. Chaque fois, les médias sociaux sont inondés de nouvelles. Il y a des nouvelles que l'objectif réel. Il y a un bon critique, mais il y a beaucoup aussi de canulars qui nous perturbent. Il y a des nouvelles qui font du bruit. La plupart des nouvelles sont remplies d'informations inefficaces et pleines de calomnies. Elles divisent la communauté en menaces, même notre unité. Mais nous croyons qu'un jour cela nous rendra plus mûrs et nous serons plus mûrs et nous rendra résistants. Nous devons arrêter ensemble cela et pour les diminuer, arrêter les fausses nouvelles ou canulars. Les nouvelles qui nous divisent, les nouvelles calomnies, nous devons faire face à ces nouvelles et dans cette condition, les grands médias devraient être en mesure de redresser les choses qui sont tardues et d'éclaircir la nébulosité dans les médias sociaux. Le président Joko Widodo admet que le phénomène de la propagation des fausses informations dans les médias sociaux provoque parfois une agitation au milieu de la société et du gouvernement. Mais selon lui, ce phénomène est un phénomène mondial envisagé par de nombreux pays dans le monde et le président a également exprimé sa gratitude au Conseil de la presse qui a fait un effort de vérification contre les entreprises de médias. L'Indonésie avait été des dizaines d'années indépendante d'un envahisseur. Le gouvernement a été dirigé par beaucoup d'anciens présidents. Ceux qui dirigent l'Indonésie doivent être en mesure de développer l'Indonésie devient un État prospère. Le ministre de la Coordination de la Politique, la Justice et la Sécurité, M. Wiranto, dans une discussion avec les chefs des médias de masse à Jakarta, au ministère de la Justice et la Sécurité, a déclaré récemment que la jeune génération de l'Indonésie obtenait un mandat des fondateurs de la nation pour être en mesure de maintenir et de développer l'Indonésie pour être un État souverain et ses gens prospères. Une image avec un très expert et intelligent des fondateurs de la nation, puis chaque gouvernement qui est formé, quel que soit le président, et doit faire les mesures concrètes pour protéger toute la nation et la patrie de l'Indonésie, pour progresser la prospérité, éduquer la nation et mettre en œuvre leur rôle dans le monde. Maintenant, dans la position d'héritier, notre génération hérite le testamentaire le plus sacré et donc aller développer l'État uni, souverain, juste et prospère. M. Wiranto a également déclaré que lié au gouvernement actuel, en fait, il y avait beaucoup de choses qui seront faites par le gouvernement de Joko Widodo qui ne sont pas bien communiquées au public. Selon lui, le gouvernement Jokowi tente de diriger le gouvernement avec un travail bien et une bonne coordination, même ils ont également une bonne réponse à la volonté du public. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du comité de travail du projet de la loi sur la culture, M. Ferdi Ferdiansa, a fixé des objectifs d'achever le projet de loi sur la culture en avril 2017. Au séminaire national de la culture à Jakarta, il a déclaré que le projet réglerait la création d'une institution culturelle visant à répondre aux aspirations de la communauté dans la promotion de la culture. Pourquoi l'institution nous considérons nécessaire qu'il n'y ait aucune institution pour que les gens expriment leurs aspirations sur le principe culturel. Et cela a aussi besoin d'une institution pour les gens qui veulent livrer leurs aspirations. Et cette institution va plus tard créer un plan directeur sur la promotion de la culture. Ferdi Ferdiansa a expliqué plus loin, cette institution aidera également le gouvernement à faire des politiques dans l'aspect de la promotion de la culture. Le Parlement créera également une institution de gestion des fonds culturels. Monsieur Ferdiansa a ajouté qu'à présent, le projet de loi du comité de travail était en train de formuler des points concernant les sanctions accordées aux étrangers qui copient la culture indonésienne qui a été enregistrée à l'UNESCO. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une rencontre avec le président sud-africain, Jacob Zuma, a déclaré que l'une des priorités de la diplomatie économique de l'Indonésie en 2017 était d'améliorer les relations économiques avec les pays d'Afrique. Cette déclaration a été faite, Retno Marsudi, à Jacob Zuma, lors d'une réunion à sa résidence officielle à Cape Town. Jacob Zuma a apprécié la priorité du gouvernement indonésien dans la région africaine. Il a souligné le ralentissement de l'économie mondiale exige le gouvernement de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud de connaître les domaines de coopération qui peuvent être faits. Madame Retno Marsudi a également rendu une visite de courtoisie à Jacob Zuma comme l'envoyé présidentiel pour transmettre l'invitation à l'événement de l'Association des États riverains de l'océan Indien, ou IORA. La valeur de commerce entre l'Indonésie et l'Afrique du Sud dans la période de janvier jusqu'à octobre 2016 a atteint 860 millions de dollars américains. Les exportations principales de l'Indonésie à l'Afrique du Sud sont entre autres le véhicule, le coton, les chaussures et le papier. En 2016, la valeur d'investissement de l'Afrique du Sud à l'Indonésie a atteint 9 815 millions de dollars américains. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'effort pacifique en Colombie ». En novembre de l'année dernière, le gouvernement colombien et le groupe des Forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, avaient conclu un accord de paix. Mais récemment, précisément mercredi le 8 février, le gouvernement colombien a tenté d'établir à nouveau un effort pacifique avec un autre groupe rebelle actif, l'Armée de libération nationale, ELN. Cet effort est destiné à mettre fin à un conflit qui a duré plus d'un demi-siècle. Le nombre de victimes a atteint plus de 250 000 personnes. Selon l'AFP, cet effort sera un pas en avant pour le processus de paix en Colombie sous la présidence de Juan Manuel Santos. La Colombie est l'un des pays du continent américain où un conflit survient souvent entre le gouvernement et les rebelles. L'affrontement a commencé depuis les années 1960, lorsque les groupes de droite, de gauche et les cartels de la drogue se sont battus contre le gouvernement. Sur le plan économique, ce pays est le troisième pays dans la zone d'Amérique latine. Pourtant, la Colombie est mieux connue comme le plus grand producteur de cocaïne de la région. L'effort du gouvernement pour établir la paix avec ELN semble être plus difficile qu'avec FARC. ELN est un groupe insurgé qui est plus difficile à opposer au gouvernement. En fait, le représentant du gouvernement, Juan Merigue, a marqué l'effort de paix avec une cérémonie au monastère jésuite en Équateur. Pendant ce temps, le négociateur en chef du gouvernement, Juan Camilo Restrepo, voit l'occasion de revenir sur une sombre histoire de conflit dans le pays. Auparavant, Restrepo a rappelé à ELN que sans la cessation de la violence comme l'enlèvement, le processus de paix serait difficile à atteindre. Pendant ce temps, le négociateur de rebelles de l'ELN, Pablo Beltrán, a demandé au gouvernement d'être responsable des actions pendant le conflit. Si le gouvernement prend des mesures, ELN est prête à faire le même pas. Espérons que l'effort de négociation entraînera une paix concrète entre les parties en conflit. En tant que pays ami, l'Indonésie s'attend à ce que la Colombie devienne un pays sûr pour ses citoyens et soit un bon partenaire de l'Indonésie dans divers domaines de la région d'Amérique latine. Sur Ritor, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, ces auditrices et ces auditeurs du monde entier. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec la signature du traité de Paris. Le 10 février 1947 marque la signature du traité de Paris entre les alliés vainqueurs du dernier conflit mondial, les États-Unis, l'URSS, Royaume-Uni, France, Pologne, Tchécoslovaquie, Grèce et Yougoslavie, et les puissances européennes anciennement affiliées à l'Allemagne nazie, Italie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie et Finlande. La décision générée, ces traités sont toutes les colonies italiennes en Afrique du Nord, ont été reprises par les Britanniques. Le territoire italien est réduit et romainement. L'Italie a dû payer des dommages de guerre. L'Abessinie et la Bernie ont obtenu l'indépendance et Trieste est devenu un État indépendant sous les Nations Unies. En sens, le 10 février 1979, les généraux du régime de Shah en Iran ont prolongé la période du régime militaire à Téhéran. À faire cette mesure, ils ont tenté d'empêcher le soutien de la population contre les membres de la force aérienne de l'Iran qui ont pris parti pour la révolution, qu'à ce moment-là a été attaquée par les forces de la garde royale. En outre, il espère, dans le délai, en partie, l'imam Khomeini et ses partisans peuvent être capturés ou tués. Répondant à cela, l'imam Khomeini a appelé les gens à ignorer le gouvernement militaire. Le peuple iranien continue également leurs manifestations et les affrontements en ont lieu dans diverses bases militaires qui étaient encore fidèles au Shah. Nous finissons le 10 février 2009. Les collisions entre les satellites Iridium 3-3 et Cosmos 2-2-101 a eu lieu le mardi 10 février 2009 à 16h56 TU à 776 km au-dessus de la péninsule de Taïmyr en Sibérie. Cette collision impliquait le satellite commercial Iridium 33 de l'entreprise Iridium, satellite spécialisé dans la téléphonie par la satellite, et le satellite Cosmos 2251, un satellite de la télécommunication militaire russe de type Strela 2M retiré du service. C'est le premier événement répertorié de ce type. Les deux satellites ont été détruits lors de la collision qui a produit un nombre important de débris. C'était notre histoire d'aujourd'hui, l'édition 10 février. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sergent Blanten, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, la visite de la ministre indonésienne des Affaires étrangères au continent africain. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, fait une visite bilatérale à trois pays d'Afrique, à savoir l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Mozambique, du 5 au 8 février 2017. Elle a commencé sa visite en Égypte dimanche le 5 février 2017. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a mené la réunion bilatérale avec le ministre de la Coopération internationale de l'Égypte, Sahar Nasser. À cette occasion, le ministre Nasser a affirmé diverses similitudes d'intérêt dans le domaine économique entre l'Égypte et l'Indonésie, comme attention aux petites et moyennes entreprises, aux PME. Relatif à cela, les deux ministres encourageront une coopération plus étroite entre les PME des deux pays. La ministre Retno a également rencontré des hommes d'affaires indonésiens qui ont investi en Égypte. Retno Marsudi, dans son communiqué dimanche le 5 février, a expliqué « Les produits indonésiens sont très compétitifs en Égypte avec un marché d'environ 92 millions de personnes en Égypte. Il y a encore une grande chance pour les autres produits à développer. Diverses marchandises et produits de l'Indonésie sont considérés comme excellents avec d'autres produits sur le marché égyptien, comme l'huile de palme, le café, des nuits instantanées et des pneus de véhicules à moteur. Les produits comme l'artisanat et l'équipement de spa de l'Indonésie sont également commercialisés en Égypte. En plus d'être un marché pour les produits de l'Indonésie, l'Égypte est également considérée comme la porte d'entrée vers le marché d'Afrique et du Moyen-Orient. Retno Marsudi espère que ce potentiel peut être utilisé par des hommes d'affaires en provenance d'Indonésie. De l'Égypte, la ministre Retno Marsudi continue sa visite en Afrique du Sud. Lors de sa rencontre avec le président sud-africain Jacob Zuma, la ministre Retno Marsudi a dit « L'une des priorités de la diplomatie économique de l'Indonésie en 2017 est d'améliorer les relations économiques avec les pays d'Afrique. L'Afrique est une région qui a un énorme potentiel, si bien que ce pays est important pour l'Indonésie de continuer à améliorer et élargir la coopération dans cette région, en particulier en Afrique du Sud. » La ministre Retno Marsudi a promu le potentiel économique de l'Indonésie aux hommes d'affaires sud-africains, tout en donnant un discours lors du Forum des affaires Afrique-Sud à l'Indonésie. Récemment, Mme Retno Marsudi a dit aux hommes d'affaires sud-africains sur la réforme économique qui est en train d'être faite par le gouvernement indonésien. À cette fin, elle a invité les hommes d'affaires sud-africains à venir commercer et investir en Indonésie. Le voyage de la ministre Retno Marsudi en Afrique a pris fin au Mozambique. Lors d'une réunion avec le président du Mozambique, Philippe Jacinto Nyusi, la ministre Retno, comme envoyé du président de l'Indonésie, a également assisté à une réunion du Forum d'affaires entre l'Indonésie et le Mozambique à Maputo mercredi. Dans son discours, outre de transmettre différentes étapes des réformes économiques en Indonésie, Mme Retno Marsudi a promu les produits indonésiens tels que les voitures de chemin de fer. Il l'offre au Mozambique qui est en train de développer le système de transport ferroviaire. Les voitures de chemin de fer de l'Indonésie sont très bonnes et ont été exportées vers plusieurs pays. L'Indonésie est prête à travailler ensemble pour soutenir le système de transport ferroviaire qui est en cours de construire au Mozambique. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo et Madame Iriana Joko Widodo ont assisté à la commémoration de la Journée nationale de la presse 2017 à Ambon les Moulouk, jeudi le 9 février 2017. Ils ont été accueillis par le président de l'Association des journalistes indonésiens, UPWI, M. Margiono. Le présent a été accompagné par, entre autres, le ministre de la Communication et de l'Information, M. Rudi Antara, le ministre de Coordination pour le Développement Humain et Culture, Mme Puan Maharani, le secrétaire du cabinet, M. Pramono Anung, le ministre de la Santé, Mme Nila Muluk, et le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya. Il y a aussi les fonctionnaires de l'État, des ambassadeurs des pays voisins et le propriétaire de la société de médias. Dans son discours, le président a exprimé l'espoir que la célébration de la Journée nationale de presse 2017 peut être une étape ensemble pour construire la République unitaire d'Indonésie et de développer une économie plus équitable pour tous les gens de l'Indonésie. Nous espérons l'anniversaire de la Journée nationale de la presse 2017 dans la ville de Ambon pour renforcer notre engagement commun pour construire l'Indonésie harmonieuse et la réalisation économique équitable pour tous les Indonésiens. Le président a également assisté à la signature d'un mémorandum d'accord entre le Conseil de la presse, le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne ou TNI et le chef de police. Le protocole d'entente est un accord entre les trois parties dans l'effort pour fournir une protection à la profession des journalistes. En outre, le président a donné symboliquement l'élan à économie d'énergie au gouverneur des Moluques, M. Saïd Assagaf, qui sera distribué à la population locale qui en a besoin. Le phénomène des utilisations des médias sociaux du public en Indonésie devient un outil qui est habituellement utilisé pour diffuser les fausses informations ou canulars. La propagation des canulars utilise généralement les médias sociaux comme moyen de diffusion. À ce sujet, le président Joko Widodo a déclaré qu'il était optimiste avec ce phénomène pour rendre les Indonésiens plus matures. Ainsi, ils peuvent être plus sages d'utiliser les médias sociaux et de filtrer toutes les informations dans les médias sociaux. En outre, le président encourage les médias actuels à effectuer le rôle de corriger toutes les fausses informations diffusées sur les médias sociaux. Il a également déclaré que dans ce cas, les médias traditionnels ont le pouvoir d'exactitude et la profondeur de l'information qui est capable de presser le mauvais impact de la diffusion des fausses informations au public. La numérisation de la communication rend chaque personne, chaque individu devient un producteur de nouvelles. Tout peut être la prédication, ce qu'il avoue et ce qui est passé. Chaque fois, les médias sociaux sont inondés des nouvelles. Il y a des nouvelles que l'objectif réel. Il y a un bon critique, mais il y a beaucoup aussi de canulars qui nous perturbent. Il y a des nouvelles qui font du bruit. La plupart des nouvelles sont remplies d'informations inefficaces et pleines de calomnies. Elles divisent la communauté en menaces, même notre unité. Mais nous croyons qu'un jour cela nous rendra plus mûrs et nous serons plus mûrs et nous rendra résistants. Nous devons arrêter ensemble cela et pour les diminuer, arrêter les fausses nouvelles ou canulars. Les nouvelles qui nous divisent, les nouvelles calomnies, nous devons faire face à ces nouvelles et dans cette condition, les grands médias devraient être en mesure de redresser les choses qui sont tardues et d'éclaircir la nébulosité dans les médias sociaux. Le président Joko Widodo admet que le phénomène de la propagation des fausses informations dans les médias sociaux provoque parfois une agitation au milieu de la société et du gouvernement. Mais selon lui, ce phénomène est un phénomène mondial envisagé par de nombreux pays dans le monde et le président a également exprimé sa gratitude au Conseil de la presse qui a fait un effort de vérification contre les entreprises de médias. L'Indonésie avait été des dizaines d'années indépendante d'un envahisseur. Le gouvernement a été dirigé par beaucoup d'anciens présidents. Ceux qui dirigent l'Indonésie doivent être en mesure de développer l'Indonésie devient un État prospère. Le ministre de la Coordination de la Politique, la Justice et la Sécurité, M. Wiranto, dans une discussion avec les chefs des médias de masse à Jakarta, au ministère de la Justice et la Sécurité, a déclaré récemment que la jeune génération de l'Indonésie obtenait un mandat des fondateurs de la nation pour être en mesure de maintenir et de développer l'Indonésie pour être un État souverain et ses gens prospères. Une image avec un très expert et intelligent des fondateurs de la nation, puis chaque gouvernement qui est formé, quel que soit le président, et doit faire les mesures concrètes pour protéger toute la nation et la patrie de l'Indonésie, pour progresser la prospérité, éduquer la nation et mettre en œuvre le rôle dans le monde. Maintenant, dans la position d'héritier, notre génération hérite le testamentaire le plus sage et donc aller développer l'État uni, souverain, juste et prospère. M. Wiranto a également déclaré que lié au gouvernement actuel, en fait, il y avait beaucoup de choses qui seront faites par le gouvernement de Joko Widodo qui ne sont pas bien communiquées au public. Selon lui, le gouvernement Jokowi tente de diriger le gouvernement avec un travail bien et une bonne coordination, même ils ont également une bonne réponse à la volonté du public. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du comité de travail du projet de la loi sur la culture, M. Ferdi Ferdiansah, a fixé des objectifs d'achever le projet de loi sur la culture en avril 2017. Au séminaire national de la culture à Jakarta, il a déclaré que le projet réglerait la création d'une institution culturelle visant à répondre aux aspirations de la communauté dans la promotion de la culture.
Kenapa kelembagaan kami memandang perlu yang selama ini terjadi tersumbat?
Pourquoi l'institution nous considérons nécessaire qu'il n'y ait aucune institution pour que les gens expriment leurs aspirations sur le principe culturel? Et cela a aussi besoin d'une institution pour les gens qui veulent livrer leurs aspirations. Et cette institution va plus tard créer un plan directeur sur la promotion de la culture. Ferdi Ferdiansah a expliqué plus loin, cette institution aidera également le gouvernement à faire des politiques dans l'aspect de la promotion de la culture. Le Parlement créera également une institution de gestion des fonds culturels. Monsieur Ferdiansah a ajouté qu'à présent, le projet de loi du comité de travail était en train de formuler des points concernant les sanctions accordées aux étrangers qui copient la culture indonésienne qui a été enregistrée à l'UNESCO. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors d'une rencontre avec le président sud-africain, Jacob Zuma, a déclaré que l'une des priorités de la diplomatie économique de l'Indonésie en 2017 était d'améliorer les relations économiques avec les pays d'Afrique. Cette déclaration a été faite, Retno Marsudi, à Jacob Zuma, lors d'une réunion à sa résidence officielle à Cape Town. Jacob Zuma a apprécié la priorité du gouvernement indonésien dans la région africaine. Il a souligné le ralentissement de l'économie mondiale exige le gouvernement de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud de connaître les domaines de coopération qui peuvent être faits. Madame Retno Marsudi a également rendu une visite de courtoisie à Jacob Zuma comme l'envoyé présidentiel pour transmettre l'invitation à l'événement de l'Association des États riverains de l'océan Indien, ou IORA. La valeur du commerce entre l'Indonésie et l'Afrique du Sud dans la période de janvier jusqu'à octobre 2016 a atteint 860 millions de dollars américains. Les exportations principales de l'Indonésie à l'Afrique du Sud sont entre autres le véhicule, le coton, les chaussures et le papier. En 2016, la valeur d'investissement de l'Afrique du Sud à l'Indonésie a atteint 9 815 millions de dollars américains. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'île de Karimunjawa afin de profiter de la beauté de la plage de Batu Topeng. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la Voix de l'Indonésie. L'île de Karimunjawa se trouve au nord de Java Central, précisément en région de Jepara. Pour y aller, on prend environ 2 jusqu'à 3 heures de Semarang, la capitale de la province de Java Central. Dans le passé, beaucoup de gens savent la ville de Jepara comme un entrepôt de meubles et de la sculpture, mais maintenant Jepara est aussi connu pour avoir un endroit touristique marin, à savoir l'île de Karimunjawa. Explorer l'île de Karimunjawa est le plus amusant. Y avait-il un paradis caché? Sable blanc accompagne toujours les visiteurs qui souhaitent en profiter. Un endroit à ne pas manquer lorsque vous êtes sur l'île de Karimunjawa est la plage de Batu Topeng. Elle est située dans le quartier de Karimunjawa, au village de Alang-Alang. La distance de Karimunjawa à la plage de Batu Topeng est environ 8 jusqu'à 9 km. La place de Batu Topeng est un lieu touristique à Karimunjawa qui a récemment ouvert pour des cibles touristiques parce que dans le passé, cet endroit était encore une forêt et il n'y a pas de route d'accès pour y arriver que par le bateau. Maintenant, les visiteurs ou les touristes qui viennent à Karimunjawa peuvent diriger vers la place de Batu Topeng sur une moto ou bien une voiture avec un temps de voyage d'environ 30 minutes. À la place de Batu Topeng, vous pouvez faire la plongée en apnée de la côte dans la mer. Vous pouvez aussi visiter les îles à proximité de la place de Batu Topeng en louant un bateau de pêche ou bien un bateau des habitants locaux. Si vous partez seul, c'est préférable de se joindre à d'autres. D'habitude, ce bateau de pêche peut accueillir jusqu'à environ 15 adultes et le loyer devient moins marché. Nager à la place de Batu Topeng est vraiment amusant parce que beaucoup de poissons surgissent à la place. Si vous êtes bon à la natation, vous pouvez aller un peu à la mer pour voir les différents types de poissons et les récifs coralliens colorés. Ici, le type de poisson que l'on rencontre souvent est le poisson Nemo, communément appelé le poisson clown. La beauté sous-marine de la place de Batu Topeng ne vous fait pas sentir comme vous êtes en mer. En outre, à partir du bord de la place de la mer, vous pourrez profiter du magnifique coucher de soleil. La nuit, vous pouvez rester à la place de Batu Topeng. Vous pouvez camper sur la place tout en feu de joie et de brûler le poisson. Ici, vous n'avez pas à vous soucier de mourir de faim parce que sur la place, il y a quelques vendeurs de nourriture et de boissons. De la place, vous pouvez sentir la nourriture délicieuse tout en profitant de la beauté des paysages et les rafales de vent qui vous fait attarder sur cette plage. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le village touristique Langgaran. Gunung Kidul est situé à Yogyakarta, en Indonésie, et est très célèbre pour son beau tourisme de plage incroyable. Mais pas seulement l'enchanteur de tourisme de plage, il y avait un village qui a été nommé le meilleur village touristique de l'ASEAN. Chers auditeurs, le village Langgaran, situé dans le district Patuk, la résidence Gunung Kidul, environ 30 minutes en voiture du centre-ville de Yogyakarta, est en effet mérité un prix comme le meilleur village touristique de l'ASEAN en 2016. Ce prix est décerné le prix de tourisme communautaire en ASEAN au prix de CBT de l'ASEAN. en 2017 est le premier prix de CBT de la Seine organisé dans une série d'activités du Forum touristique 2017. Selon le raisin de Gunung Kidul Badinga, le village touristique d'Englangran est l'un des gestions du village touristique qui est un exemple pour les autres gestions du village touristique parce que la gestion communautaire peut améliorer l'économie des résidents locaux. Tandis que Sugeng Handoko, le gestionnaire du village touristique d'Englangran, a dit, le ministère du Tourisme a choisi Englangran et deux autres villages d'Indonésie pour mettre en œuvre le principe de la gestion communautaire du tourisme, à savoir le village touristique de Dieng Kulon, Banjarnegara et le village touristique de Panglipuran, Bali. Trois villages sont été choisis parmi les activités de l'appréciation des affaires communautaires du secteur de tourisme 2016 comme village touristique considéré comme un succès dans l'application des principes de gestion du tourisme communautaire pour recevoir le prix de CBT de la Zian en 2017. Territoire, il y a trois endroits gérés par la communauté au village touristique Langran, à savoir le volcan Purbang Langran, Mbung Langran et la cascade de Kedung Kandang. Sugeng espère que ce prix peut stimuler l'esprit des villageois, si bien que l'augmentation de l'économie, de la sensibilisation, maintient l'environnement, la force d'apprécier et de défendre le sage local et l'unicité du village ou de la région sera plus forte. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme l'enfant de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son. Programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix de l'Indonésie. Voici le magazine de Planginada, ou magazine de musique, édition de vendredi, avec moi, Muhammad Suwartono. Comme chaque vendredi, on vous présente le rythme de dangdut, le rythme qui est très populaire en Indonésie et aussi à chaque niveau en Indonésie. Pour ce soir, on vous introduit Trio Macan, ou Trio de Tigre. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre, écoutez une chanson chantée par Trio Macan intitulée Cici Lalang. Bonne écoute.
Cari lagi cinta Hong Lian. Sudah 7 bulan belum selamatan.
Serzami, trio macan et un groupe vocal ou un groupe de voix composé par 3 chanteuses. La première, Lia Amelia, Sasa Serli et Eva Novanda. Leur chanson est très populaire, intitulée SMS. Cependant, vous savez, cette ancienne chanson a déjà célébré grâce à chanteuse Lia Amelia, une chanteuse de Padang, Sumatra d'Ouest. Malgré toute la controverse chez trio macan, au début de sa carrière, Trio Macan a montré sa compétence. Elles ont réussi à se prouver en remportant le meilleur prix de dangdut organisé par MTV Indonésie en 2006. À cette occasion, Trio Macan a gagné après avoir battu des autres chanteurs et chanteuses de dangdut. Outre des chansons de SMS, leur premier album contient aussi 2 anciennes chansons appartiennent de Nicky Astria, Jarum Neraka et Tangan-Tangan Setan, et aussi Rindu Berat. Eh bien, chers amis, avant de continuer, écoutez la chanson de Trio Macan intitulée Suka Sama Kamu. Bonne écoute.
Cara sama kamu, bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa? Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka, 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 suka sama kamu?
Chers amis de la Voix de l'Indonésie, vous êtes toujours l'écoute, l'émission langue française de la Voix de l'Indonésie Jakarta. Et pour ce soir, dans le programme de musique indonésienne, et pour ce soir, la musique de dangdut. Et maintenant, on parle le trio Macan. Au milieu de 2007, trio Macan a lancé son deuxième album, intitulé « Aku Punya Nama », avec le single ou le piste proposé, intitulé « Sexy ». Et vous avez, non seulement dans la voix, trio Macan s'intéresse aussi à être actrice dans quelques films. On peut dire, c'est le film télévisé intitulé « Dawai Asmara ». Et aussi, au mi-avril 2009, trio Macan a sorti son premier écran intitulé « Darah Janda Kolong Wewe ». Et en 2010, elle joue un rôle dans un film « Hantu Puncak Datang Bulan ». Et en 2011, trio Macan change le personnel. Ivan Novanda démissionné et remplacé par Lia Amelia. En 2012, trio Macan a lancé son single intitulé Iwa Peye et aussi le single Buka Sitik Jos et Oplosan. Mais aussi, après ça, trio Macan a lancé un album. Et grâce à cet album, le nom de trio Macan qui a fait couler avec l'arrivée de nombreux nouveaux chanteurs et chanteuses est maintenant encore levé et encore favorisé. Bon, chers amis dans la voix de l'Indonésie du monde entier, c'était en notre rencontre dans le magazine de musique avec trio Macan. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez deux dernières chansons de trio Macan intitulées Iwa Peye et Sakit Hati. Et après avoir écouté, nous terminons notre programme. Bonne écoute et au revoir.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même à même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.